Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi.
Bienvenue à vous tous et toutes pour ce 7e épisode d'Explore. Alors, on l'avait déjà évoqué avec Marc Pernaut quelques épisodes en arrière. Internet, c'est un des champs d'innovation, un des principaux champs d'innovation pour l'Église aujourd'hui, un territoire où il y a beaucoup à explorer. Et aujourd'hui, je me trouve avec deux personnes qui, on peut dire, explorent depuis longtemps la transmission du message de l'Évangile sur Internet, longtemps en tout cas une dizaine d'années, web-séries, présence sur les réseaux sociaux, vidéo-livres, podcasts. Ils ont déjà bien roulé leur bosse et continuent d'explorer les différents formats qu'offre le numérique, et d'ailleurs tous les nouveaux formats qui apparaissent un peu peut-être pas toutes les années, mais tous les 5 ans, on a des nouveaux trucs. Donc je suis avec Carolina et Victor Costa. Salut Carolina.
Salut Elio.
Et salut Victor.
Hola, ¿qué tal?
Ouais. On aura le droit à quelques
espagnolades.
C'est ça. On sent qu'on va plus vers le sud dans cet épisode. Donc ouais, je suis avec vous. Bon, vous êtes pour le milieu francophone réformé. On commence à vous connaître un peu. Ce qui m'intéressait, c'était aujourd'hui de voir avec vous, d'explorer cette histoire, voilà, de la production de médias chrétiens sur les différents médias numériques qu'on a aujourd'hui, et puis qu'est-ce qui soutient finalement toute cette production. Alors Carolina, on te voit dans des vidéos, on t'entend, Victor d'ailleurs aussi, on te voyait dans les vidéos, ça avait commencé avec Ma femme est pasteur, on peut dire.
Même avant, avec Bienvenue chez nous.
Voilà, on discutait justement avant, vous aviez déjà un précédent séculier, pas religieux. Dans
qui nous a formé justement.
On a fait quand même 140 capsules en 7 ans, ça forme.
Ça a duré 8 ans. Ouais. Ouais.
Donc peut-être quand même juste pour introduire, donc Carolina, tu es pasteur dans l'église protestante de Genève.
Oui.
Et puis si je dis que tu as un côté influenceur, est-ce que ce serait complètement faux?
Mais non, c'est la vérité. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui disent « Ah, il faut pas dire que c'est un côté influenceur », mais enfin, c'est le vocabulaire qui est utilisé à l'extérieur. Et au fond, c'est aussi vrai, parce qu'on a un message influent, qui est le message chrétien, et c'est quand même celui qu'on veut insuffler dans le monde. Donc, on essaye, bien sûr, d'influencer avec l'évangile dans le monde. Donc oui, je trouve que c'est juste.
On serait juste, donc voilà. Mais via quand même un engagement dans l'église protestante de Genève, ou en tout cas, on discutera aussi comment ces deux facettes travaillent ensemble. Ouais. Et puis, Victor, tu es l'éminence grise de Carolina. Ou le support technique, ou les deux?
Alors moi, j'ai un parcours un petit peu alambiqué, mais voilà, moi, à la base, je suis comédien formé à Paris au Conservatoire National.
Ah, je savais pas ça.
Du coup, voilà, c'est-à-dire que ces formations où on essaie de sortir le mieux de soi-même, parce que c'était école normale, c'est pour ça que j'ai ce profil toujours insatisfait, c'est ce que je fais. Et puis en plus là-bas, comme je suis très curieux, je me suis auto-formé sur plein de trucs, la musique, le chant, la mise en scène, et puis bien évidemment la réalisation, et l'analyse du data.
Mais t'as toujours été aussi un geek.
Un geek, ce que ça veut dire un geek, c'est tellement grand, mais on va dire que...
C'est un mec qui est capable de s'enfermer quelques heures et de faire des formations sur Internet.
Moi, je dirais plutôt un autodidacte. C'est quelqu'un qui aime apprendre et qu'il n'a pas besoin d'avoir un prof physique, il peut le faire avec des formations online.
Ouais, parce qu'il a fallu on y viendra sur les aspects techniques justement, mais quand même apprivoiser tout un tas d'outils. Qu'on n'a pas forcément, alors qu'on n'a certainement pas via la théologie, mais j'imagine pas non plus via l'acting en tant que tel.
En fait, je dis c'est l'école de l'update. C'est des choses qu'on peut pas apprendre à l'université ni sur des livres, parce qu'en fait, une fois qu'ils sont décidés à imprimer, c'est complètement obsolète, et tu l'apprends en différentes langues, puisque la langue n'est plus une barrière aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle, et t'apprends des meilleurs que tu trouves.
Faisons un peu de rétrospective historique. Moi, les premiers souvenirs que j'ai de l'apparition de Carolina sur la vie ecclésiale web, c'était en lien avec ma femme et pasteur, et on en a discuté tout à l'heure. C'était en 2014, en gros.
Je crois que c'était en 2015 vraiment que c'est sorti.
Ouais.
Et
donc une web série. D'ailleurs, je pense que si on tape ma femme et pasteur sur Google, on trouvera les épisodes assez facilement. Comment est-ce qu'on arrive déjà à cette web-série, puis ensuite, quel est le chemin jusqu'à aujourd'hui, en 2023, peut-être si on peut avoir quelques éclats de cette histoire?
En fait, ça a commencé vraiment parce qu'on a été invité, justement, comme on avait beaucoup de travail déjà sur les vidéos avec Bienvenue chez nous, à un moment donné, on a été invité par Michel Kocher, qui était le directeur à l'époque des médias protestants, qui avait organisé une matinée de réflexion avec des différents intervenants des médias. Et du coup, on a présenté un peu ce qu'on faisait à l'époque, parce qu'on avait aussi fait une capsule qui s'appelait « Il était une fois les gens » pour la RTS, avec des interviews d'enfants et d'adultes de tous âges.
Dans le cadre de « Faut pas croire ».
Voilà. Et à ce moment-là, à la fin de la présentation, Victor a dit un peu comme une boutade, mais aussi quelque chose qui mûrissait petit à petit à l'intérieur de lui, t'as dit « Ah, mais moi, j'aurais un rêve, ce serait de faire une fois une web-série qui s'appellerait « Ma femme est pasteur ». Et au premier rang, il y avait un monsieur qui s'appelait Paolo Mariani.
OK.
Et qui était aussi mari de pasteur à l'époque et qui a levé la main et qui a dit « Moi, ça m'intéresse
». Lui, l'accent italophone, par contre.
Exactement. Ouais. Et puis, du coup, c'est comme ça que c'est parti. Genève, on avait aussi un petit peu parlé. Donc, finalement, on s'est retrouvé à la PSIC, qui est donc cet endroit de collaboration entre les églises romandes et qui pouvait rentrer sur des projets. On a présenté « Ma femme est pasteur » et très vite... trois grandes églises sont parties, et puis assez vite, ça a été une collaboration aussi un peu plus large avec d'autres églises qui ont rejoint de Suisse romande. Et le projet est né comme ça. Il faut juste aussi se rappeler, parce que pour moi, c'est aussi important dans l'échange, c'est que, à l'époque, on avait créé un pilote, et on était d'ailleurs aussi en lien avec l'RTS.
Il faut expliquer qu'est-ce que c'est un pilote.
Oui, alors un pilote, donc c'est un épisode qui n'est pas forcément diffusé, mais qui teste, au fond, la formule pour présenter ce que ça pourrait donner. Et pour ce pilote, on avait engagé une comédienne qu'on avait castée et qu'on avait imaginée qui serait du coup la comédienne qui jouerait la pasteur.
Quel était le nom du personnage déjà ?
C'était Clara.
Clara, exactement, ouais.
La clairvoyante. Et puis, on a montré ce pilote avec cette comédienne qui était très bien. Et à la fin, en fait, dans un retour de ces épisodes, les chargés de communication des églises, en fait, nous ont dit, c'est super, nous, on est partant pour le projet, mais à la seule condition que ce soit toi qui joues.
Ok.
Et moi, j'étais plutôt partie en mode, j'ai fait 8 ans de Bienvenue chez nous, je suis un peu fatiguée, j'aimerais peut-être faire autre chose. Et d'un coup, cette question...
Tu l'évoques là, mais Bienvenue chez nous, c'était une série pour la télé.
Oui, hein, c'était une série pour la télé, mais que Victor avait très vite compris qu'il fallait aussi que ce soit diffusé sur Internet.
Il est né en 2009 pour promouvoir un spectacle théâtral du même nom, ça s'appelait Bienvenue chez nous, que c'est un spectacle, c'est un concert théâtral. Et Bienvenue chez nous, c'était un petit peu comme la fameuse sitcom Un gars et une fille français, mais avec la particularité d'un Espagnol qui arrive en Suisse.
Ouais.
Et voilà. Et puis
on a fait 8 saisons de ça où on jouait nos propres rôles.
Ouais.
Et donc c'était déjà ce travail-là.
Simplement, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, on était au départ sur les télévisions locales de Suisse romande. Et au bout de la deuxième ou troisième année, j'ai eu le fil de dire il faut sauter sur Internet. Et du coup, j'ai réussi. C'était pas gagné. Oui. J'ai mis une année et demie pour les convaincre. On est rentré chez 20minutes.ch.
Ok, ouais.
Et avec à la ça fait beaucoup plateforme. Ça a permis de découvrir une manière aussi de viraliser les épisodes à l'époque, parce que c'était complètement novateur en fait. Hein.
À cette époque, YouTube naissait voilà, c'était encore autre chose.
Mais j'allais dire, c'est quoi, 2010, vraiment le
2009-2010,
que ça démarre vraiment quoi. Mm.
Donc on a fait, tu as 8 ans de ça, et puis à ce moment-là, moi j'étais plutôt un peu fatiguée, et puis j'avais peur aussi, parce que j'avais dit, moi j'ai peur en fait de jouer le rôle d'une pasteur alors que je le suis vraiment,
oui.
Et qu'après je disais, au fond, je me retrouve dans un service funèbre, et puis quoi, les gens me reconnaissent, et puis ils me prennent pas au sérieux. C'était un peu caricatural.
J'ai affaire à qui, en fait, quand je vois Caroline Acosta, du coup.
Voilà, c'est ça aussi, est-ce que c'est la fiction, du coup, est-ce que la fiction c'est proche de la réalité, ou c'est vraiment un personnage, et ça me faisait vachement peur. Et puis, à un moment donné, un peu, c'est comme des appels, quand même. Et donc, je me suis dit, mais au fond, je leur ai dit, je suis d'accord à la condition, vous me promettez que vous allez me backer. Parce que, évidemment, que si je fais ça, je vais de nouveau cristalliser peut-être des jalousies, peut-être des problèmes, des attaques. Enfin, il pouvait y avoir plein de choses. Et j'ai dit, je veux bien y aller, mais j'ai besoin d'être sécurisée.
Oui, parce que là, on est sur le plan du contenu, mais c'est vrai que le personnage, il est à la fois dans son métier, mais aussi ancré dans le quotidien. Enfin, qu'est-ce que c'est d'être un être humain aujourd'hui, pasteur en couple, pasteur femme, le regard du mari et tout ce qui est autour.
Surtout de ce mari agnostique. Enfin, de nouveau, on dévoilait aussi pas mal de choses quand même personnelles, même si... Dans notre vie concrète, on n'est quand même pas...
C'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes, on n'est pas les mêmes personnages. D'ailleurs, ils sont plutôt inversés dans la réalité.
Un drôle.
Mais oui, forcément que tu t'exposes et que comme c'est tellement proche de la réalité, on pourrait confondre les choses. Et puis, je le dis encore, mais c'est vrai parce que je l'avais pressenti, on l'avait pressenti. Évidemment, tout d'un coup, si la vraie pasteur, c'est aussi une vraie pasteur qui joue, forcément, médiatiquement, ça va peut-être susciter de l'intérêt. Donc, de nouveau, d'être au centre, etc. Mais bon, finalement, on a accepté de répondre à cet appel-là, et puis on s'est lancé.
Et après, on a eu la surprise, parce que ça, je pense que ça fait beaucoup plus de bruit, peut-être, que Bienvenue chez nous. Monsieur Bienvenue chez nous, au départ, quand on l'a sorti en 2009, et c'était nouveau.
Ouais.
Mais Ma femme est pasteur, elle est sortie que sur le web. On n'avait pas essayé d'être sur les télés.
Oui.
Et ce qui fait que le succès qu'elle a eu pendant les deux premières saisons, ben, c'est les télés qui ont racheté les droits pour la diffusion télé. En fait, ça fait naturellement le parcours inverse.
D'accord.
Et puis après, je sais que le fait aussi de faire tous les festivals de web-séries du monde, on a fait quand même le tour du monde.
J'allais dire, c'est une série qui a justement été nominée dans pas mal d'endroits.
Oui. On est allés, et nous sommes déplacés. Nous sommes allés à New York, nous sommes allés, en tout cas moi, deux fois à L.A. On est allés à...
Vous avez gagné quelques prix aussi, parce que...
À Lens, à Paris, en Angleterre, là, à Londres.
On a gagné le prix du festival religieux européen à Paris, justement,
à Paris,
où on a aussi commencé à rencontrer aussi d'autres personnes.
Et la web-série, après, ce qui est super étonnant, c'est qu'elle a été doublée, pas sous-titrée. C'est doublé en italien et en allemand. C'est quand même énorme. C'est quand même une belle vie.
Je pense qu'il y aurait beaucoup à raconter là autour. Mais justement, pour moi, ce qui est intéressant,
c'est ce
qui se développe.
Ouais. Voilà. C'est-à-dire que, ce que ça a suscité, ma femme est pasteur, c'était la surprise. Alors, tiens, on peut être femme, on peut être une pasteur et en même temps comédienne. Et puis, petit à petit, quand on découvrait qu'en fait, j'étais vraiment pasteur, il y a eu aussi cette demande. Mais alors, qu'est-ce qu'elle dit, la vraie pasteur, finalement, derrière tout ça?
En fait, si je suis un petit peu précis par rapport à mon souvenir, qui est peut-être pas le tien, mais c'est normal, c'est qu'on garde des choses différentes à chaque fois dans notre disque dur interne. Mais je me rappelle, on était à Berlin, justement, dans le cadre d'un festival. Et puis, à l'époque, il y avait un monsieur qui s'occupait d'écrire la colonne des festivals de web-série sur le journal Libération de France. Et il nous avait justement dit ça. Ce serait marrant que vous faites des épisodes ou que vous expliquiez exactement qu'est-ce qu'elle dit la pasteur. Parce que, bien évidemment, moi, quand on faisait le tour du monde avec la web-série, les gens ne savaient pas que le personnage principal était une vraie pasteur. Et on le découvrait pendant le festival. Et ça alimentait encore plus l'envie de le découvrir.
Et après tout ça, il y a eu le Covid.
Et après ça, exactement, je m'en rappelle. Mais voilà, dans toutes mes facettes, ces petites facettes d'entrepreneur aussi, parce que voilà, on mène une association et puis voilà, il faut gérer les équipes, voilà, faire marcher un petit peu ce qu'on appelle la boutique. Et notre structure, elle marchait beaucoup justement avec la création de contenu, parce que voilà, c'était la mode. Comme on était un petit peu les premiers en Suisse qui avaient fait ça, c'est mis à la mode. On a commencé à faire ça pour beaucoup de marques. On a travaillé pour la Praille, on a travaillé pour le T16, on a travaillé pour plein de marques.
Alors l'association, pas forcément vous deux,
bien sûr.
Là, maintenant.
Mais moi, je tenais toujours parce que je voulais toujours avoir toujours un pied à terre en dehors dans le monde séculier, parce que ça, voilà, je suis agnostique et puis surtout, ça me permet de sentir qu'est-ce qui se passe dans la vie pour pouvoir l'intégrer le mieux possible dans le langage chrétien. Voilà, c'est toujours, de toute façon, même voilà, ce qu'on va parler maintenant, c'est une réflexion dans ce sens-là. Et le Covid a fait que voilà, on pouvait plus tourner. Du coup, il fallait s'arrêter et c'est là que le Covid m'a laissé du temps. Et il faut pas laisser les costas avec du temps devant soi. Parce que sinon, ça va mal se passer.
D'un coup, il y a plein de choses qui émergent après.
En fait, ce qui est marrant, c'est que j'avais dit à Garo, je me rappelle, c'est qu'à ce moment-là, nous, on était assez présents sur le web déjà. Et on a vu plein, justement, quand on pouvait plus être sur le physique, tout le monde s'est réinventé et tout le monde a fleuri sur le net. Et des structures qui n'étaient pas encore dans le net se sont lancées à fond. Et moi, je me suis dit, non. Maintenant, au lieu de faire foi de ce que tu fais aujourd'hui, disparaît. Tu n'es plus là. Pendant une année, parce qu'en plus, j'avais tout calculé, je lisais tellement à l'époque, je disais, voilà, je pense que Léa, il va avoir une ouverture, du coup, on aura 3 mois pour faire ça. Et je me suis pas beaucoup trompé dans les planning.
Victor, il a un côté un peu visionnaire, j'avoue.
Et du coup, je me suis dit, je veux me taire, je veux disparaître du digital. Mais par contre, quand je reviens, il faut faire x5.
Mais c'est aussi parce qu'en fait, on avait remarqué aussi qu'il y allait y avoir un gros changement, c'est que les tournages qu'on faisait à l'époque étaient beaucoup plus lourds, avec beaucoup de structures, d'outils, de matériel. Et comme évidemment, pendant le Covid, on n'avait pas grand-chose, Victor, il a fait aussi un truc incroyable. Je me souviens que tu avais du temps, tu avais fait venir du matériel des États-Unis qui était beaucoup plus léger avec des smartphones, en fait, sur lesquels tu pouvais mettre des objectifs professionnels et faire des films comme des vrais films. Et donc, tu avais beaucoup travaillé là-dessus pour finalement tout alléger, parce qu'on savait aussi qu'après le Covid, t'avais dit, tu verras, les gens, ils auront aussi moins de budget. Donc, il va falloir repenser tout notre métier de manière beaucoup plus allégée et réactive, etc. Et donc, tout ça allait en même temps avec ce projet de vidéo.
Parce que concrètement, moi, comme je perçois, je sais qu'il y a plus que ces productions-là, mais on est passé du format de la web-série, qui a eu 3 saisons, si je ne me trompe pas, à
4 saisons.
À un format où, en tout cas, ce que je vois de toi maintenant, c'est plus du face caméra, c'est des petites capsules. Je crois qu'il y a aussi eu une tentative dans le road trip spirituel, des choses plus en extérieur, mais plus sur un format où, au fond, je peux le faire moi-même avec ma caméra à la maison, dans le do-it-yourself.
Exactement.
Moi, j'ai perçu cette transition-là. Est-ce que c'est ça pendant cette
Alors justement, en fait, pendant ces deux ans, moi, je, bon, de toute façon, là, je, après ces deux ans, je suis condamné, hein, condamné à étudier tous les jours, non-stop. Et le jour où je m'arrêterai parce que je serai fatigué et je laisserai la passation aux autres. Mais je sais que je suis rentré dans une dans un rythme chronophage d'apprentissage non-stop, surtout avec l'arrivée de l'IA, c'est tous les jours.
Ouais.
Mais
ce que tu as développé, c'était beaucoup cette stratégie digitale. C'est pas juste on va faire des vidéos, mais
En fait, ce que j'ai fait plusieurs choses. Une des choses, c'est qu'en fait, j'ai essayé de comprendre justement comment travailler les workflows, la rapidité des workflows avec justement le gain de temps et le gain d'économie. Et là-dedans, c'est pour ça que j'ai développé ce côté de pouvoir agripper à l'iPhone des objectifs caméra et tourner très vite avec la profondeur de champ. Parce qu'à l'époque, il y avait l'iPhone 13 et la profondeur de champ vidéo n'existait pas sur l'iPhone.
Okay.
Ça, c'est la première chose. Et du coup, voilà, c'était une boîte chinoise et une boîte américaine qui avaient ce matériel, mais ils étaient super, super fun parce qu'ils livraient ça à une semaine près. C'est la première chose que j'ai mis en place. Et la deuxième chose que j'ai mis en place, justement, c'est une étude de qu'est-ce qui se passait sur le digital, point de vue, justement, ce côté influenceur ou comment capter l'attention, parce que nous sommes aujourd'hui dans le marché de l'attention. Et là-dessus, j'ai suivi plein d'infopreneurs, je me suis inscrit partout, j'ai payé partout, j'ai lu tout et n'importe quoi en espagnol, en français, en américain. Et là-dedans, j'ai décidé de mettre justement cette réflexion qu'on avait juste avant le Covid avec ma femme et Pasteur sur une version que j'ai appelée 360 degrés. Et en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes voient justement le haut de l'iceberg. C'est-à-dire, on voit Carolina sur des vidéos face cam, c'est ça qu'on voit. Mais derrière, il y a une stratégie extrêmement multiprise. Et surtout, c'est que il y a une création d'une communauté online extrêmement forte. C'est
donc,
ça, en fait.
Savoir, au fond, qui, ces gens qui consomment ces productions-là, qui suivent Carolina, enfin, qui suivent les productions en lien avec Carolina, ou vous, disons, là, il y a une communauté qui se crée autour de tout ça.
Oui. Aujourd'hui, par exemple, pour donner des chiffres, il y a déjà les personnes qui sont rentrées dans les plateformes de vidéolivres, je crois aujourd'hui sont 850 personnes déjà.
Donc le vidéolivre, moi j'ai découvert ça avec vous, je connaissais pas ça d'avant.
C'est parce qu'on l'a créé.
Ah, voilà.
Oui, non mais c'est ça.
En quoi ça consiste ? Parce que vraiment, j'ai pas du coup pour accéder au produit, je vais regarder. Là, je n'allais pas mettre les sous là-dedans. Ça avait quand même un certain montant. Mais en quoi ça consiste ?
Alors en fait, il faut comprendre que justement au départ, dans l'idée d'aller sur Internet et de faire des vidéos, nous on n'avait rien. C'est-à-dire qu'on partait vierge, on n'avait pas de financement, donc il fallait aussi réfléchir. Donc,
en plus de vos activités de base, hein, en fait.
Oui. Donc en fait, l'idée c'était de dire ok, on va faire des vidéos, mais comment est-ce qu'on peut penser qu'il y a une progression au fond aussi pour les personnes, pas juste voir une vidéo, mais qu'il puisse se passer une transformation, qu'on puisse passer juste de tiens, ça m'intéresse, mais au fond, c'est quoi la voie chrétienne ou comment je pourrais approfondir. Et puis aussi, d'une manière, évidemment, il fallait aussi pouvoir trouver une source de financement. Donc, comme les livres papier à l'époque, de nouveau, hein, temps de Covid, c'était compliqué, et ben Victor, un jour, et voilà, il a cette illumination, il dit on va faire des vidéolivres, bien sûr. Et puis au fond, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est comme des équivalents de masterclass finalement. Mais d'ailleurs, les masterclass sont aussi beaucoup développés par la suite. Oui. Mais toi, t'as pris ce mot de vidéolivre qui est au fond l'idée de, au lieu d'écrire un livre, de vraiment faire une espèce d'enseignement par oral, comme on irait dans une classe, mais avec la chance qu'en même temps, ça permettait justement, par exemple, de faire de la méditation ou d'avoir des temps plus suspendus qu'on pourrait vivre aussi dans une église, par exemple, ou une paroisse. Et que là, du coup, le vidéolivre, ce format le permet, en fait. Donc, on a commencé par ça. J'ai commencé par un premier vidéolivre qui s'appelait L'initiation à la foi chrétienne, qui était, on s'est dit au début, il m'avait dit, tu vas faire 2 heures. Et puis, je me suis pas rendu compte, mais j'en ai fait 22.
Oui. 22 heures de contenu.
Ouais, 22 heures de contenu, parce que c'est une vraie initiation. C'est comme, en fait, j'ai repris aussi du matériel que j'avais évidemment utilisé déjà en paroisse. Et pour l'adapter sur ce format. Et puis comme ça, petit à petit, donc je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu la stratégie à 360 degrés, comme tu l'expliques, parce qu'il y a ces vidéos...
Alors pour essayer de le rendre plus accessible, en fait, c'est capter l'attention dans le marché de l'attention, que l'on est aujourd'hui sur le web, et commencer par un petit café jusqu'à arriver au mariage. Mm-hmm. Du coup, le petit café, on peut le mettre, par exemple, la métaphore du reel de 45 secondes.
Ah, quelque chose de court.
De court, voilà, vertical.
Mais c'est pas seulement court, c'est,
il y a aussi. En fait, il y a plusieurs stratégies là-dedans, il y a plus de paliers, en fait. C'est comme une espèce d'entonnoir, et du coup, en fait, t'as les formats les plus courts, les formats les plus longs. Bien évidemment, une personne qui passe avec toi sur un podcast d'une heure et demie, il va te reconnaître, il va passer plus de temps, il va avoir plus d'intimité avec toi qu'une personne que tu vois sur un reel de 45 secondes. Ouais. Et en fait, là-dedans, t'as plein de choses. T'as les reels, t'as les vidéos de 5 minutes sur YouTube, t'as les shorts, t'as plein de choses différentes et chaque format a une morphologie différente. C'est-à-dire que sur les 45 secondes, il faut que tu prennes l'attention sur les premières 3 secondes et il faut pas que tu la lâches, sinon tu le perds parce que voilà, les gens scrollent super vite. Celui du podcast, là, il y a plus de, c'est pas un réseau social, le podcasting, du coup, les gens vont te chercher. Et tout ça, il faut bien l'analyser. Et après, voilà, il y a tout ce qu'on appelle l'étude du marché, voir les thématiques qui marchent le mieux, qu'est-ce qui fait la concurrence, voilà. C'est un travail vraiment 360 degrés. Plus de tout ça, t'as la référencement naturel, le SEO, qui va permettre de positionner un petit peu ce qui fait Mark Penn. Nous, on a vraiment touché tout. Depuis le site internet, avec tout le travail de, justement, de SEO.
Qui est, en gros, le degré d'accessibilité ou à quel point tu vas rapidement apparaître dans les recherches.
Voilà, c'est ça. C'est un travail de fou, de fourmi. En plus, on a une équipe aujourd'hui à Bilbao qui travaille avec nous. Et c'est des geeks, justement, que dans le SEO, le référencement naturel. Et après, il y a tout le travail, justement, de création de contenu pour l'attention. Et après, il y a tout le travail où moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dedans. J'ai plus de 1500 campagnes dans mes doigts de, on va dire, contenu et sponsorisé, que ce soit sur Meta, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Et ça aussi, c'est aussi un travail énorme, justement, de mots-clés et de sponsorisation pour le contenu. Mais toujours avec un objectif précis.
Et ça continue, du coup, à se développer, ça. Enfin, quand tu dis que tu es en processus d'apprentissage, c'est aussi que tous ces formats continuent d'évoluer et
Alors, pour te faire un exemple, simplement, c'est que il y a 2 ans, j'avais fait une grosse campagne, justement, de sponsorisation sur Meta et Google. On arrivait à voir des personnes à partir de même pas 1 franc, la captation des personnes. Et aujourd'hui, on est à 4 francs. C'est-à-dire que ça a tout changé. On a dû acheter une nouvelle formation, on a tout réappris. Parce qu'en fait, ça change à chaque fois.
Ouais. Là, par rapport à ça, une question que je me pose, quelle est la vision qui guide le développement? Là, maintenant, on vire un peu plus côté contenu hein, quand je dis ça, mais quelle est la vision qui guide ce développement de contenu qui demande énormément d'énergie quand je vous entends là, parce que voilà, Carolina, t'as ton travail au niveau de la paroisse ici à Carouge maintenant. Victor, toi, c'est nouveau, mais tu travailles aussi pour les médias Réformé Roman, et puis du coup aussi en lien avec les associations, toujours leur activité, j'imagine.
Tout à fait.
Donc tout ce dont on parle là participe un peu de ces deux activités, mais en même temps, c'est aussi toujours du surplus. Mais qu'est-ce qui guide votre regard, quelle est votre intention, peut-être votre vision justement là-dedans?
Je pense qu'au débat, au tout début, on a vraiment cette idée de se dire, on va propager, de manière très naïve, hein, aussi, d'une certaine manière, on va propager l'amour, c'est-à-dire essayer d'avoir une parole un peu autre sur Internet pour parler de l'évangile de cette manière inclusive, progressiste, féministe, voilà, qui caractérise aussi un petit peu mon travail. Et puis, en fait, en faisant, on a appris. C'est-à-dire qu'au début, on se lance comme ça, mais on sait pas très bien forcément non plus qui va être l'auditoire, comment ça va être reçu, comment ça va se passer. Et en fait, au fur et à mesure, on a fait une chose très importante qu'il faut qu'on cultive aussi dans nos églises, enfin que moi j'ai appris à faire, c'est les sondages. Vrais sondages, mais du coup avec des gens ciblés, c'est-à-dire qu'on... Donc, juste pour comprendre, toutes ces personnes qui sont sur Internet, elles, au fond, l'idée, c'est qu'elles puissent, quand il disait captation tout à l'heure, c'est qu'elles puissent rentrer dans le cercle, ce qu'on appelle le cercle privé dans notre jargon, c'est-à-dire l'endroit où, en fait, moi, je vais envoyer un mail tous les mardis. Parce que là, on va sortir, au fond, de l'univers des réseaux sociaux pour rentrer dans un lien plus personnel, au fond, plus communautaire aussi, d'une certaine manière. Donc là, dans ces lettres-là, moi, j'ai commencé à écrire au début. Là aussi, j'ai dû faire tout un travail j'ai dû suivre des formations que justement Victor me demandait de suivre pour apprendre à écrire d'une certaine manière sous ce format. Donc, j'ai appris à écrire comme ça. C'était comme réapprendre à écrire des prédications par écrit, d'une certaine manière. Et puis, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le jeu. Mais moi, c'est des choses, par exemple, qui me choquent pas du tout, parce que le jeu, c'est comme quand on écrit une chanson, parce que nous, on a été aussi formés ensemble à l'écriture des chansons dans une école à Paris, c'est là qu'on s'est rencontrés.
Okay.
Et en fait, quand t'écris une chanson, il faut trouver un jeu. Tu peux très bien chanter une chanson en jeu, et qui soit un jeu universel. Donc c'est la même chose par l'écriture, de trouver même si je parle de moi ou d'anecdotes qui m'arrivent, c'est toujours pour arriver à quelque chose où l'autre peut s'y reconnaître. Et donc, en faisant ce travail aussi d'écriture, bah évidemment le but c'est de d'évangéliser en fait, et puis ça c'est ce dont on s'est rendu compte, mais évangéliser qui? C'est ce que les sondages nous ont permis de comprendre. Donc on a eu des retours de centaines de personnes qui ont répondu à ces sondages, et on a pu identifier que les personnes, on a travaillé sur une formule au fond pour décrire ces gens, et donc on a dit au fond j'aide les personnes qui sont déçues, qui ont été blessées ou qui ont eu des mauvaises expériences dans le domaine, dans le christianisme, enfin dans des églises ou des communautés, ou des personnes qui sont tout simplement en recherche, qui n'y connaissent pas grand chose. D'ailleurs, c'est un peu une prouesse, si j'ose le dire comme ça, parce que j'ai toujours un auditoire double. C'est-à-dire, soit des gens qui n'y connaissent rien du tout, mais qui tout d'un coup font des expériences, parce qu'il y en a plein en ce moment, des gens qui sont dans des familles athées, qui tout d'un coup ont une espèce de fulgurance spirituelle, et puis qui commencent à chercher, et qui se sentent proches du christianisme au sens de Christ, c'est-à-dire vraiment des évangiles.
Oui.
Et puis après, t'as tous ces gens qui, eux, en ont tellement bouffé qu'ils ont été, plutôt
saturés
ou de très mauvaises expériences parce qu'ils ont des lectures littéralistes, rigoristes. Et puis, bien sûr, toutes les personnes de LGBT, enfin, qui ont beaucoup souffert dans certains milieux. Donc, on a tous ces gens qui doivent comme réapprendre ou redécouvrir la foi chrétienne avec des yeux neufs.
Et ça, c'est, du coup, tu as découvert que c'est ce groupe-là, ces deux groupes-là, oui, qui sont rejoints ou
parce que tu proposes. Discours, exactement. Ouais. Et en fait, du coup, on a développé beaucoup de contenu pour ces personnes, en fait. Donc, les vidéos livres, c'est pareil. On essaye de partir des besoins des gens pour répondre à leurs besoins. Et ça, c'est quelque chose... Pour moi, ça a été un retournement de cerveau et de très nombreuses discussions, pour pas dire parfois disputes, entre Victor et moi, parce que Victor, comme il dit toujours, le data parle. Et le data ne ment jamais.
Donc, finalement, quel est le flux de visite de tes produits, quoi?
C'est-à-dire surtout, qu'est-ce que ces gens ont besoin? Et c'est pas ce que tu crois. Et en fait, ce que j'ai découvert en faisant ce travail, par exemple, c'est l'élitisme du monde réformé.
Ah oui, attends, mais parce que moi, sûrement que je dois aussi le faire, ce retournement dans ma tête. Attends, donc il t'a appris à t'orienter sur eux.
Sur les gens.
Et sur le pourquoi. Et
sur le pour qui, surtout. Sur le pour qui.
En fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que moi, pendant toutes ces formations, sur différents types de catégories, d'autres secteurs, comme par exemple le marketing, ou l'entrepreneuriat, ou les spiritualités en plan plus large, ou la bourse, par exemple, ce que m'a permis, c'est de trouver les patrons, les similitudes. Il y a en fait une chose qu'on peut-être... c'était moins évident quand j'ai voulu transposer ça dans le monde chrétien, c'est répondre à des besoins. Nous, on va répondre à des douleurs de personnes. C'est-à-dire qu'une personne qui est par exemple un petit peu obèse, mais qu'elle pense que ça va, elle va pas commencer à faire des choses pour résoudre ça, pendant qu'une personne qui est obèse mais qu'elle sent que que ça va pas pour elle, elle va commencer à prendre conscience.
Mais là, on travaille sur quelque chose tout d'un coup.
Oui, mais c'est très important parce que c'est le béaba d'un biais psychologique chez l'être humain. Et si on n'est pas là, une personne qui n'a pas de problème de vue n'a pas de besoin de lunettes.
Oui.
Et tu peux l'offrir toutes les lunettes que tu veux, mais il va jamais mettre des lunettes. Du coup, en terminé, déjà, c'est le béaba. Et pour comprendre ça, il faut savoir d'abord quelle est l'audience qu'elle est devant toi. Et cette audience-là, quels sont ses besoins? Et à partir de là, tu vas pouvoir proposer des choses pour leur aider.
Donc, pour transposer ça, ce qui a été douloureux, c'est de réaliser que souvent... Parce que, en fait, tout ce qui se passe sur le web, pour moi, résonne en local. C'est-à-dire que ça m'a transformé aussi mon travail en local, en vrai.
Tu restes la même Carolina aussi au travers de tout ça.
Oui,
toi.
Je veux dire, ma manière de proposer des choses en local, elle a complètement changé. C'est-à-dire, même mes flyers, ma manière de présenter les choses. Parce que j'ai appris tout ça en faisant ce travail. Donc, je vais juste essayer de donner un exemple concret. Quand il dit, quelle est la douleur de la personne, en fait... Je me suis rendu compte que nous, souvent, dans les églises réformées, on propose des choses à des gens, entre guillemets, je caricature, mais qui vont déjà bien, qui ont un super niveau intellectuel, qui ont déjà des connaissances, etc. Mais les gens sont pas du tout là. Nous sommes une minorité incroyable, en fait, par rapport au monde du web et, en fait, finalement, du monde local. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils se posent des questions beaucoup plus basiques, au début, c'était beaucoup, justement, aussi, quelles sont les différences entre protestants et catholiques?
Oui.
Est-ce que j'ai le droit de faire l'amour avec ma copine avant le mariage? Est-ce que j'ai le droit de me masturber? Enfin, des trucs... c'est des thèmes où le diable, la fin du monde, des choses, franchement, que moi, quand j'ai fait mes études de théologie, jamais j'ai abordé ces questions.
Ouais. ça paraît un peu lointain.
Mais c'est-à-dire que c'est parce que je pense que dans les études de théologie, comme c'est quand même un niveau académique intellectuel assez fort, Et ben en fait, on est complètement coupé de questions hyper basiques de monsieur et madame tout le monde. Et donc là, j'ai découvert qu'il y avait un gap énorme. Et donc quand on parlait de descendre le seuil et mon niveau de discours par exemple, mais aussi justement les sujets. Moi je me disais mais tout le monde s'en fout de ce sujet. Mais en fait pas du tout. Et c'est là qu'il dit le data ne ment pas et qu'en fait par exemple quand on doit faire des sujets, qu'il doit me proposer des sujets, ben c'est des choses auxquelles j'aurais jamais pensé, mais c'est grâce à ces sujets parce que je les traite que tout un tas de gens qui sont peut-être à la frontière, qui savent pas trop, tout d'un coup ils se disent « Ah dis donc, on pourrait être chrétien comme ça ?» Parce qu'en fait, c'est aussi l'autre chose dont on s'est rendu compte et qui est hyper important dans notre travail, c'est que la majorité des gens ne savaient même pas que notre courant protestant réformé ou luthérien ou presbytérien, parce que j'ai aussi appris par exemple à devoir l'élargir pour dire quelles sont les
églises sœurs.
Ben la plupart des gens ne savent pas du tout ça, parce que être chrétien sur internet c'est principalement être évangélique ou catholique romain.
Ouais, c'est ça.
Donc ça c'est une des choses qu'on a aussi découverte, c'est que en fait il y avait, et c'est là qu'on a aussi commencé à réfléchir en se disant mais attends, mais on peut pas faire ça tout seul si longtemps, parce que en fait ça concerne vraiment toutes nos églises, en fait, cet enjeu de présence sur Internet, au point que on a aussi dû vivre cette expérience un peu compliquée au départ, parce qu'on n'était pas prêts. C'était toutes ces attaques, quand même très violentes parfois, que Victor, à un moment donné, il y a eu tout un moment très, très dur. Je ne sais pas si tu veux en parler.
Non, en fait, voilà, c'est quand tu l'as la première fois, ben c'est un peu plus dur qu'on maintenant aujourd'hui. Voilà, on va dire, je la balise, quoi. Je me suis fait la carapace, mais c'est vrai qu'au départ, voilà, il y avait parfois des commentaires un petit peu haineux, voire peut-être menaces de mort. Ouais. Et voilà, tu te poses des questions. Parce que quand tu crées du contenu, tu veux faire du bien aux gens. Du coup, tu dis, c'est super, je vais avoir plutôt des congratulations. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, et c'est ça qui me touche dans ma démarche à moi personnelle, parce que moi, je suis agnostique, mais je suis pour l'humain, et je trouve que la confession réformée, c'est celle qui se rapproche le plus dans le monde chrétien vers l'humanisme et surtout dans cette variante plus progressiste. Et c'est là que moi je voulais mettre en lumière. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, tout simplement, je pense que le monde réformé s'est endormi depuis pas mal de décennies. Et en fait, cette réforme que j'apprends via Carolina intellectuellement, qui était pionnière à l'époque de l'imprimerie pour pouvoir divulguer et vulgariser ça aux gens et que ça prise d'ampleur, mais aujourd'hui, il est resté dans une Côte d'Ivoire et que ses impressions, c'est à nouveau en latin.
Dans une tour d'ivoire.
Tour d'ivoire, c'est ça.
Ouais, oui.
Bah, c'est mon côté espagnol.
Oui.
Mais dans une belle tour d'ivoire côté côte. Le côté Costa. Non, mais je rigole. Mais qui imprime en latin. Je me suis dit, voilà, là. Et c'est pour ça que, voilà, le constat, c'est que moi, chez les jeunes, le monde réformé, on sait même pas qu'est-ce que c'est.
Donc il y a aussi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement quand on s'expose avec ce message, avec voilà une proposition forte et profilée, il y a du backfire, quoi. Enfin, en gros, ça crée de l'interaction dans les deux sens. Hein. Ça j'entends et qu'il y a aussi voilà quelque chose à apprivoiser de ce côté-là.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait c'est très symptomatique du fait que quand on est entre nous tout va bien, hein, on n'est pas attaqué, il y a pas de problème. Mais le témoignage de l'Évangile depuis le début de l'Évangile, c'est une prise de risque. Il y a une croix à porter et en fait au fur et à mesure, il y a vraiment eu un basculement même dans la vie intérieure, j'ai envie de dire, de Victor quand on a vécu ça, parce que tout d'un coup, c'est comme tu disais, je réalise que je veux contribuer en fait à ce que ça puisse exister sur Internet. Aussi pour nos filles, on a deux filles, on aimerait quand même qu'elles trouvent du contenu comme ça. Et finalement, c'est ça aussi qui résonne pour, par exemple, des donateurs, des donatrices qu'on a aussi trouvé par la suite avec l'Église, de sensibiliser au fait que c'est quand même ça l'enjeu en fait du futur.
Qu'est-ce que tu transmets? Qu'est-ce que tu mets comme héritage? Qu'est-ce que tu donnes comme espace de sens? Comme imaginaire, comme possibilité de se projeter dans une identité chrétienne ou pas, enfin,
Que nos propres jeunes déjà trouvent ces ressources-là, que c'est d'être chrétien de cette manière-là, et puis qu'ils puissent être fiers et puis ambassadeurs eux-mêmes de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où ces extrêmes sont un peu poussés à l'extrême, comme on dirait, et cette parole-là, en fait, elle crée quelque chose, elle suscite des débats, des discussions et des attaques.
Non, et en plus, moi, ce qui me fait marrer quand je lis beaucoup de commentaires des personnes que je transmets après Carolina comme un pasteur pour répondre, je me rends compte qu'en fait, il y a comme des prisons. C'est-à-dire, si tu fais ça, c'est très mal et tu vas aller à l'enfer. Mais en fait, il n'y a pas une autre possibilité, parce que la possibilité réformée qui pourrait être une possibilité en plus, en fait, ça n'existe pas dans l'imaginaire des gens, parce que elle n'est pas visible. Ouais, du coup, si encore la personne dit OK, là ça joue pas, mais j'ai encore cette possibilité, voilà, je peux le voir ailleurs. Ouais. Mais comme c'est complètement anéanti, et dès qu'on sort un petit peu la visibilité, on est attaqué pour. En fait, nous, par exemple, physiquement, enfin pas physiquement, mais digitalement, le compte TikTok a été fermé 2 fois.
Tout par des pirates.
Non, par des pirates, non, parce qu'en fait, en terminé, c'est des groupes qui se, on voit des WhatsApp et se mettent en bande à des
même
centaines
ils se
de personnes.
Un peu comme des armées, hein.
Des armées de lumière et qui viennent tout simplement à, voilà, à mettre plein de commentaires ou bien réclamer.
Pour te dénoncer,
pour dénoncer. Et bien évidemment, après, nous, on envoie une petite email à TikTok avec une pièce d'identité et ils comprennent très vite. Mais, moi, je me rappelle quand on avait rencontré Père Mathieu, qui avait participé avec nous.
Père Mathieu, c'était le plus grand influenceur catholique avec plus d'un million d'abonnés sur TikTok.
TikTok. Okay. Ben, lui, il nous disait qu'il avait été fermé TikTok 3 fois la même journée.
Waouh, ok. Ouais.
Donc, il y a une vraie guerre sur Internet entre ces chrétiens.
Voilà, qui montre... Oui, tu le dis, c'est une guerre.
Oui, mais c'est Victor m'a encore montré tout à l'heure, il y a un gars qui a un peu d'influence sur Internet, puis il fait plein de vidéos dans lesquelles il y a une série sur les abominations de la pasteur Carolina Costa, par exemple.
Ah, mais voyons. Pour tout ça, va jusque-là.
Et puis juste pour finir, donc tu vois, la mission, en fait, elle s'est affinée avec le temps et on la découvre aussi au fur et à mesure.
Oui.
C'est-à-dire que ça, on l'avait pas du tout vu au départ, cette mission de proclamer cette parole réformée ou cet évangile, en même temps, parce que pour moi, c'est plutôt l'évangile d'abord qu'on proclame.
C'est ça, ouais.
Mais ça, c'est quelque chose dont l'Église a pris conscience à un moment donné quand on est allé les voir. Parce qu'on a commencé à se dire, il faudrait quand même avoir du soutien plus institutionnel, en fait. Parce que justement, il y a cette responsabilité aussi. Et c'est là que, par exemple, l'Église protestante de Genève a été sensible à ça aussi et a compris l'enjeu et a décidé de nous aider pour nous soutenir et d'intégrer ça comme une mission, la mission web d'évangélisation. Ça, c'est aussi un gros mot qu'on a décidé d'assumer. Parce
qu'il faut
a
se réapproprier dans notre contexte. Ouais.
C'est-à-dire témoigner de cette parole, en fait. C'est juste ça, en fait. Apporter cette bonne nouvelle parce que, littéralement, ce qu'on n'a pas encore dit, parce qu'on a parlé beaucoup d'adhéteurs, mais ce qu'on ne dit pas, c'est tous les messages, les courriers et les personnes, mais des fois où on pleure tous ensemble dans l'équipe, parce que quand on les partage, il y a des gens qui te disent littéralement, tu leur as sauvé la vie quand même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous menacent de mort, mais il y a des vies qui sont sauvées par le Seigneur, parce que nous, moi je considère qu'on propage la parole, mais après on n'est pas maître de ce qui se passe chez les gens, mais en tout cas on est témoin du fait que cette parole permet des transformations incroyables.
Ça libère quelque chose tout d'un coup.
Complètement.
Selon ce qu'on dit, selon quel regard on porte aussi sur les situations et les personnes, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Là où il n'y avait rien, là où il y avait des prisons et puis beaucoup de haine et d'inquiétude apparemment qui
se présentent. Il y a des gens qui sont quand même en dépression parce qu'ils subissent ces violences
psychologiques
et ces abus spirituels en fait.
J'aurais voulu, le temps file, j'aurais voulu qu'on aborde la question du rôle que prend cette dimension influenceur qu'on a brièvement évoqué au tout début, mais c'est un autre volet, justement, tu l'as un peu évoqué, mais on n'est pas trop à l'aise avec ça, surtout, je pense, en milieu protestant, où on cultive quelque chose comme l'effacement de soi, face à une parole autre, l'humilité, bon, je ne sais pas si c'est peut-être l'humilité, je ne sais pas si c'est ça, mais...
Si, c'est ce qu'on met derrière, en tout cas.
Ouais. Je pense plutôt quand même quelque chose de l'ordre de l'effacement de soi, ou en tout cas que ce que je dis, c'est pas moi, enfin, c'est porté par autre chose que moi, tandis que là, on rentre dans... Quand même, ma personne, mon rayonnement devient un outil central de ma proclamation. Le message et la personne, on sait que c'est jamais complètement dissociable, mais là, tout d'un coup, ça devient vraiment un outil du message, quoi.
Mais c'est un outil d'évangélisation. Moi, en fait, finalement, le personnage dont je me suis le plus rapproché ces dernières années, c'est Paul. Parce qu'en fait, Paul n'a rien fait d'autre. Et Paul, il est aussi l'instrument et il dit lui-même, c'est pas moi qui parle, mais c'est le Seigneur qui parle ou le Christ qui vit en moi. Ben, moi, c'est quand même un petit peu ce que j'essaye de faire aussi. C'est-à-dire que, ok, ben, Paul, ben, c'était important. Il avait cette notoriété. On a fait signer des lettres de Paul, alors qu'en fait, Paul ne travaillait pas seul. D'ailleurs, c'est aussi ça qui est très beau, c'est que Paul a des collaborateurs et des collaboratrices qui l'aident. Mais son nom permet d'avoir une espèce de petite autorité. Et en fait, je me dis, mais au fond, c'est un peu la même chose. On a cette espèce de petite marque, Pasteur Carolina Costa, mais c'est vraiment un prétexte pour nous aider à favoriser ce message. Et puis derrière, il y a justement toute une équipe. Et puis moi, je sais que je prêche pas Carolina Costa, quoi. Je veux dire, je prêche l'évangile du Christ. Je prêche le Christ en tort et à travers, envers et contre tout. En tout cas, moi, personnellement, j'arrive bien à dissocier ça, je crois. Après, on n'est jamais à l'abri de se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas. Mais moi, je sais toujours pourquoi je le fais. Et je pense qu'aussi, c'est une... Enfin, Moi, je sais que dans ma trajectoire de vie et de pasteur, c'est comme c'est quelque chose que j'ai vécu depuis le début,
oui.
avec les séries, télé, puis ma femme est pasteur, etc. Moi, je sais très bien qui je suis.
Oui, et puis tu es quand même active comme comédienne depuis longtemps. Enfin, c'est pas.
Voilà, il y a une séparation entre les deux. J'ai un entourage qui me permet de me rappeler que à la maison, je suis juste Carolina ou une copine ou la sœur ou la maman, etc. Et puis qu'après, c'est un rôle. C'est comme quand je mets ma robe pastorale. Finalement, c'est un peu la même chose. Et puis c'est surtout. Ça, tu peux en parler toi, mais c'est inévitable, en fait, d'avoir cette facette.
En fait, c'est pas que c'est inévitable, mais on va plus vite. C'est un petit peu comme le, voilà, je vais pas faire la métaphore parce que c'est un peu plus compliqué de rentrer dans cette métaphore, mais, en tout cas, ça va plus vite parce que justement, les gens ont besoin de voir quelqu'un pour faire confiance. Parce que quelque part, c'est gagner l'attention et la confiance. Et voir que la confiance est gagnée. Et puis si la personne, voilà, elle a été soulagée de ça, Carolina va l'aiguiller vers une paroisse locale de sa région. Mais il faut qu'il y ait
du
café au mariage, on est avec quelqu'un, on n'est pas dans l'abstrait. Ce serait beaucoup plus difficile dans l'abstrait.
Et ce que j'entends aussi, c'est de dire que au fond, le but n'est pas juste de capter les gens pour le contenu, c'est après, c'est aussi de se dire, bon, en fonction de la réalité, qu'est-ce qui est pertinent ?
Exactement, en fait. On fait beaucoup de travail d'accompagnement des personnes, en fait, parce qu'il y a... Et on a plusieurs possibilités offertes aux gens. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils se sont touchés, ils vont nous écrire par tous ces canaux. Alors évidemment, c'est beaucoup de travail, mais c'est tous les réseaux sociaux, ou par le biais de la lettre, ou sur le site internet. Et puis, ils vont nous demander où est-ce que je peux aller. À un moment donné, ils vont toujours finir par nous dire comment je peux trouver une paroisse locale, par exemple. Donc, en fait, on est une espèce de seuil d'entrée, de découverte du monde réformé.
Oui.
Donc, moi, je passe beaucoup de temps, et ça, c'est une des choses qu'on va devoir développer de plus en plus ces prochaines années, c'est des vrais liens de lieux et de personnes ressources, parce que moi, je connais pas tous les pasteurs, évidemment, francophones.
Non, oui, c'est ça. J'allais dire, la francophonie, en plus, c'est plus large que la France et la Suisse, enfin...
Et puis surtout, c'est qu'il faut que ce soit des communautés inclusives, parce que beaucoup de personnes viennent, en fait,
comme
de la communauté
LGBT. Comme tu l'as dit, dans ton public...
Voilà, ou des femmes.
Des profils,
Et puis ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire, un challenge. Et puis c'est ce que je disais à la présentation à la CER, là, au début
Conférence
juin.
Conférence des églises romandes, réformées de Suisse romande.
Je leur disais, pour nous, enfin nous, ce qu'on attend aussi, c'est que ça doit interpeller toutes nos communautés, parce que ces gens vont arriver, en fait. Donc, comment ces gens vont, allons-nous les accueillir?
Si tu les aiguilles vers une maison, est-ce qu'il y aura des portes ouvertes, quoi?
C'est ça, ces gens s'attendent à ce que maintenant... Alors, comme je disais, je représente pas le monde réformé dans son intégralité. Ça, c'est aussi un peu la difficulté.
Tu as une certaine couleur.
J'ai une couleur. Monde-là. Et puis, je demande pas du tout à ce que tout le monde ait la même couleur. Mais par contre, ce serait bien qu'on sache où sont ces couleurs. Pour pas que ces gens revivent, puisque la plupart de ces gens ont quand même déjà vécu des mauvaises expériences. Donc, tu vois, on aimerait pas qu'ils repassent par des mauvaises expériences. Mais pour l'instant, je trouve que le réseau fonctionne bien. Puis, je commence à développer moi-même un réseau sur Belgique ou sur la France, par exemple, qui fait que petit à petit, ça se dessine. Mais ça aussi, c'est une découverte. Et puis, c'est super beau aussi, d'ailleurs, parce que vraiment, ça permet justement de se rappeler que vraiment, on travaille pas seul. Et puis, une autre chose aussi que j'avais envie de dire, c'est que c'est très réformé, ce projet, parce que la démarche, c'est toujours d'amener les gens vers cette autonomie aussi qui est très protestante réformée, d'avoir ces outils historico-critiques, de pouvoir découvrir qu'en fait, c'est beau de lire la Bible avec d'autres, donc d'encourager aussi à ça. Et puis après, on a aussi créé cette on n'en a pas du tout encore parlé, mais la communauté en ligne. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont aussi besoin de passer par un SAS, envie de dire, un peu de sécurité avec moi directement. Donc, on a cette communauté qui s'appelle Au Puits de l'Évangile, où j'anime 2 heures par mois, une séance qui ressemble, en fait, à une séance qu'on pourrait vivre dans une paroisse avec un temps d'échange, de partage biblique.
D'accord.
Et de prière.
En ligne, du coup.
En ligne, sur Zoom, on fait ça. Et donc, ça permet à des gens de prendre confiance et puis de petit à petit aller peu
finalement,
ailleurs.
Finalement, depuis Internet, ça permet aussi de se recréer, enfin, ou de se réapproprier des pratiques et des identités pour peut-être après aller les revivre encore ailleurs, quoi.
Et puis, dernière petite chose, parce que tu parlais de ça au tout début du podcast aussi, c'était en off, j'ai plus, mais aussi sur les enjeux de la suite, qu'est-ce qu'on observe? Et moi, j'observe la même chose.
On va peut-être conclure avec ça, justement. Pour moi, c'était la question sur l'église qui émerge, l'église qui arrive. Qu'est-ce que vous sentez émerger à partir de cette expérience et puis de ce que vous apprenez encore maintenant? Et puis, on va conclure là-dessus.
Ben justement, une des choses qui a révélé aussi le sondage, c'était l'origine confessionnelle de ces personnes. Et en fait, il y a beaucoup de catholiques, beaucoup de réformés et des évangéliques. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une sorte d'universalisme chrétien qui est en train de se créer. Et je trouve que c'est très symptomatique de quelque chose dont d'ailleurs j'ai parlé avec un professeur de théologie qui me suit aussi, qui habite en Allemagne. C'est le professeur Linhart.
Ah, Fritz.
Oui, qui lui m'a dit aussi que lui, en fait, il observe dans notre travail les prémices de quelque chose qui a apparemment été annoncé par un autre prof et qui que j'observe sur le terrain, qui est au fond cette idée qu'on est chrétien aujourd'hui d'abord et que du coup les églises sont des maisons différentes où je peux demeurer, comme disait Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père et que du coup je peux me sentir très à l'aise pour dire bah moi j'ai envie de vivre l'Eucharistie, donc je vais aller plutôt, j'ai plutôt cette sensibilité catholique, mais je me sens très bien chez les réformés pour peut-être le partage biblique ou autre, et que du coup les gens ils sont plus preneurs d'une d'être plus comment dire, pas forcément membre d'une église seule mais de peut-être plusieurs. Et puis ça c'est une chose que je vois aussi en local, parce que du coup j'ai aussi la même configuration sur des gens d'ici. Alors moi c'est vrai que je suis en train d'explorer liturgiquement, par exemple, de faire venir, et je le fais aussi en ligne avec la communauté en ligne, ben, des symboles, parfois, qu'on qualifierait de catholiques, comme le signe de croix, ou des choses comme ça. Mais, évidemment, quand on commence à travailler sur différentes églises, on se rend compte qu'en fait, les protestants, ils ont aussi ce genre de signe quand on est chez les luthériens, par exemple. Donc, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Moi, l'église qui vient, je la vois très, beaucoup plus universaliste et beaucoup plus sœur. Entre, après c'est aussi un rêve, hein, c'est peut-être une utopie, mais une unité, une reconnaissance plus grande entre chrétiennes et entre chrétiens.
Et le regard de l'agnostique sur la question.
Alors moi, j'ai vraiment un gros flou, parce que moi je suis beaucoup aussi dans la technique, mais ce que je vois, c'est qu'il y a plein d'outils qui apparaissent tous les jours, qui quand c'est même pas où on va, je parle justement notamment de l'intelligence artificielle, je sais pas comment ça va être apprivoisé. Nous, on a construit un bot là l'année dernière avec plus de 150 vidéos de Carolina et tout son blog en knowledge, c'est-à-dire en librairie interne. On l'a testé avec des pasteurs et puis il fait des très très bonnes réponses et après il envoie vers un lien, soit une vidéo YouTube, soit une page du blog. Je vois, parce que je sais pas qui parle avec le bot, mais je vois les conversations et il y a une façon maintenant de se confesser en ligne avec justement une IA qui aurait beaucoup de savoir. Alors je sais pas, est-ce que on est ce côté dispersé, plus individuel, mais en même temps voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. J'ai une nébuleuse complètement énorme devant les yeux et la seule chose que je fais, c'est que je pratique et je suis sur le guidon, mais je ne sais pas où je vais.
Ah. Dieu est plein de surprises. Il nous a préparé des choses qu'on ne soupçonne même pas encore.
Avec un terrain énorme à explorer.
Ah, ouais.
Merci à vous deux.
Merci. Vous.
On n'en a pas parlé dans le détail, mais Victor et Carolina ne sont pas seuls dans leur travail. Il y a une dizaine de personnes qui œuvrent régulièrement avec eux sur leurs différents produits, le tout étant soutenu par une association artistique à but non lucratif, Atala Alta Productions. Et à la suite de l'entretien, nous avons encore échangé sur la transmission de leur savoir-faire, le partage de compétences, de connaissances. Le numérique est un terrain qui évolue constamment et l'apprentissage est continu, il y a donc beaucoup à faire. Le prochain entretien m'emmène au Valais, à la maison de Cana, pour découvrir un projet œcuménique qui mêle vie communautaire, solidarité, écologie. Je vais y rencontrer Joël Caron, laïc consacré dans l'église catholique romaine, et Mario Giacomino, diacre de l'église réformée évangélique du Valais. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner une évaluation sur Spotify ou Apple Podcasts. 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve d'ici un mois. Salut !